Un jour comptoir. Aujourd'hui 9 mai, sous les hurrahs d'une foule en délire, la Franche-Comté est à l'honneur. Figurez-vous qu'au stade de Colombes, le football club de Sochaux vient de remporter ce 9 mai 1937 la Coupe de France de football. Une aventure énorme, signée Peugeot. Déjà il y a 11 ans jour pour jour, le 9 mai 1926, la Coupe de France avait fait de l'œil à un club comtois. Rendez-vous compte, l'AS Valentinier, un gros bourg comtois de 5200 habitants, devient, contre toute attente, finaliste contre la fabuleuse équipe de Marseille au stade de Colombes devant 35 000 spectateurs. Oh, il ne faut pas rêver, les Marseillais l'emportèrent sèchement, 4 à 1. Mais il n'empêche, Jules Peugeot, directeur des automobiles du même nom, avait accueilli les 11 beaux royaux en pleurant de joie. Ils avaient défilé dans la vallée d'Héry-Moncourt, dans le célèbre Taco devant 3000 supporters, applaudissant à tout rompre devant l'usine de Valentinier. Ils étaient amateurs. Mais l'on se dirigeait tout droit vers le foot professionnel et il fallait augmenter la voilure. Valentinier ne suffirait pas et ce fut Sochaux qui reçut l'insigne honneur de représenter le football professionnel en Franche-Comté, le foot et aussi Peugeot. Onze ans plus tard, la Franche-Comté est en finale de la Coupe avec l'équipe de Sochaux.
Ce dimanche 9 mai, c'est joué au stade de Colombes, devant 39 538 spectateurs enthousiastes, la 20e finale de la Coupe de France, qui devait donner un successeur au Racing Club de Paris, vainqueur du FCO Charleville l'an passé. Après un match longtemps indécis, et alors qu'on s'acheminait avec un score de parité vers d'inhumaines prolongations, à 2 minutes de la fin du match, c'est un centre de l'ailier droit franco-argentin Miguel Angel Lori qui est repris de la tête par l'ailier gauche Bernard William, qui bat le goal strasbourgeois Ferenc Meyer. Et c'est le but de la victoire. Lori, défaillant de joie, s'écroule sur le terrain tandis que Williams reçoit une avalanche de bourrades de ses coéquipiers enthousiastes et reconnaissants. Parmi les 6000 gens de Nest qui ont fait le déplacement, seuls exultent les Franc-Comtois qui l'emportent par 2-1. Les fagnons à l'image de Jeanne d'Arc, que l'on fête ce même jour dans toute la France, et qui est l'insigne des Strasbourgeois, ces fagnons disparaissent comme par enchantement.
On peut lire le lendemain dans le quotidien Ce Jour, sous la plume de Jean Eskenazi, on était heureux que ce match se fût terminé dans les 90 minutes, car le spectacle des prolongations est toujours pénible et l'on ne pouvait pas décemment obliger M. Albert Lebrun à rester davantage. Albert Lebrun, le chef de l'État, a remis la coupe selon un protocole qui avait été instauré par Gaston Doumergue, protocole toujours en cours aujourd'hui. C'est le capitaine de Sochaux, l'arrière-central international Étienne Matler qui reçoit le précieux trophée. Voici ce qu'en dit le lendemain l'Humanité. Le rêve de footballeur et d'international chevronné d'Étienne Matler se réalise enfin. La coupe, cette précieuse coupe, est dans ses bras et il l'attend à ses camarades et les voici tous partis pour un tour d'honneur follement acclamé. Pendant que, tristement, les Strasbourgeois, qui n'ont pas démérité, rentrent au vestiaire. Les deux équipes se retrouveront le soir même, selon le rituel de l'époque, dans un restaurant des Champs-Élysées pour partager les souvenirs de ce match. Il y a là Étienne Matelère, capitaine robuste et souriant. Il y a le Gaulle de Sochaux, le célèbre Laurent Di Lorto, qui fut 11 fois international et qui avait déjà remporté la coupe en 35, mais entre les poteaux de l'Olympique de Marseille. Et il y a aussi Hector Cazenave, uruguayen naturalisé français et qui ne participa pas à la finale. Ces trois défenseurs furent surnommés la ligne Maginot de Sochaux. Nous étions en 37, loin de savoir de ce qu'il adviendrait de la ligne Maginot. Mais Sochaux avait remporté la coupe le 9 mai 1937. Un jour comptoir.